Frédéric Saïd, vous restez avec nous. On va dialoguer avec Boris Vallaud, qui est le nouveau porte-parole du Parti Socialiste. Alors, sur la question de la Syrie, vous êtes macronien au Parti Socialiste ?
Bon, écoutez, moi, je ne serai pas dans ce type de qualificatif, parce qu'on est sur des choses plus sérieuses que cela, quand même. Bachar el-Assad est le massacreur de son peuple. Voilà. Il a utilisé des armes chimiques contre des enfants, contre des femmes, contre des innocents, pas contre des combattants. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Et l'essentiel était en jeu. Donc il fallait intervenir. Et au fond, nous payons, les Syriens payent chèrement, durement, le fait qu'en 2013, les États-Unis et la Grande-Bretagne n'aient pas suivi la France dans ce désir de marquer la ligne rouge. On le paye cher. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui ? Qu'en effet, il n'a pas été possible de surmonter le veto russe à un certain nombre de résolutions qui existent, qui ont plus que la majorité du Conseil de sécurité. Et la proposition qui est formulée, c'est que lorsque, notamment, le Conseil de sécurité est amené à se prononcer sur des crimes de masse, eh bien, on ne puisse pas opposer un veto.
Vous voulez modifier les règles du veto
c'est une proposition qui avait été formulée déjà il y a plusieurs années par Laurent Fabius, qui me paraît bonne. Quand l'essentiel est en jeu, quand le droit international est en jeu et l'utilisation des armes chimiques est interdite par le droit international, il faut le dire, eh bien, que l'on puisse intervenir.
Comme vous l'avez dit, ça n'est effectivement pas la première fois. C'est même la 85e fois qu'il y a une forte présomption d'utilisation d'armes chimiques. François Hollande avait voulu intervenir, il n'avait pas réussi. Est-ce que là, justement, c'est à porter au crédit, au volontarisme, notamment d'Emmanuel Macron, que d'avoir réussi à intervenir ?
Il a réussi à intervenir avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, là où ces deux pays nous ont fait défaut en 2013. Et je le regrette. Je le regrette parce que, entre-temps, les dizaines de morts se sont empilées aux dizaines de morts, avec des enfants, avec des visages que l'on peut mettre sur ces victimes innocentes.
Frédéric, alors vous êtes également Boris Vallaud, secrétaire national à l'Europe, au Parti Socialiste. Vous savez qu'Emmanuel Macron prépare un discours à Strasbourg. Les élections européennes arrivent dans maintenant environ un an. On sait qu'au Parti Socialiste, c'est un sujet à la fois très porteur, l'Europe, mais aussi très compliqué. On se souvient du retournement qu'il y a eu en 2005, quand au début, les partisans, en tout cas les militants du Parti Socialiste, dans un référendum interne, avaient voté oui au traité constitutionnel européen, et où finalement, au vote final, la plupart des sympathisants socialistes avaient voté non. On voit ici le retournement qui s'opère. Concrètement, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, comment va se positionner le Parti Socialiste vis-à-vis de l'Union Européenne ?
Mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les socialistes sont européens. Viscéralement et définitivement européens. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais ce que nous disons aussi, c'est que dans le camp de ceux qui veulent l'Europe, ils voient le seul avenir pour la France. Eh bien, il y a des chemins différents, il y a des projets différents. Qu'on ne veut pas la même Europe que les droites européennes, que la droite allemande. Probablement d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, qui est un libéral et qui pourrait souhaiter faire au niveau européen ce qu'il fait en France.
En quoi vous différez justement avec Emmanuel Macron, qui lui aussi se revendique très pro-européen avec des drapeaux dans les meetings, etc.
Oui, mais vous savez, il ne suffit pas d'être dans la proclamation pour que ça fasse un projet. Moi, je crois que pendant longtemps, la gauche a considéré que l'Europe était son avenir. Et face à une Europe qui suscite la défiance, la méfiance, parfois la déception, eh bien, la gauche peut être aujourd'hui l'avenir de l'Europe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je trouve qu'au fond, il y a presque un parallèle entre le désenchantement d'un certain nombre de citoyens de l'Union vis-à-vis d'Europe et vis-à-vis de la social-démocratie en Europe. Il y a une panne d'espérance. Eh bien, c'est cette espérance qu'il faut rallumer. En mettant les citoyens, les Européens, au cœur du projet européen. Puisse répondre à cette question, à quoi l'Europe m'est utile ?
Une fois qu'on a dit ça, quelle proposition concrète ?
Eh bien, vous savez, on peut être très très concret. Par exemple, moi je crois que l'Europe, qui est la première puissance économique, elle doit participer à la réécriture des règles de la mondialisation. Une mondialisation qui est devenue à bien des égards déloyale, qui s'est financiarisée, qui est destructrice dans l'environnement. Eh bien, ces chantiers-là, il faut les reprendre. À travers une nouvelle génération de traités, à travers un modèle européen d'entreprise qui promeut l'investissement de long terme, qui promeut la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de ces actions.
Un budget commun de la zone euro, comme le propose Emmanuel Macron ?
Il faut des ressources propres, un budget européen. Vous savez, ça, c'est la boîte à outils. Après, c'est pourquoi en faire ? Voilà. Et bien moi, je vous donne ça. On peut aussi travailler sur l'Europe des cultures, pas seulement de la culture. Je pense à ce que Monet disait. Il disait, si j'avais dû commencer, j'aurais commencé par la culture. Ce qui nous lie, ce qui nous distingue, ce qui fait que nous nous admirons les uns les autres, que nous sommes un continent fertile et qui fertilise le monde entier. Je crois que nous devons être aussi l'Europe des grandes odyssées industrielles, comme nous avons su l'être avec Airbus, mais depuis lors, pas grand-chose.
Il y a une utilité à l'Europe, en tout cas, c'est d'avoir une réponse commune par rapport à la crise des réfugiés. Selon vous, l'Europe a-t-elle rempli son rôle à cet égard, Boris Vallaud ?
Certainement pas. Certainement pas. Ce que révèle la crise des migrants, c'est aussi les fractures de l'Europe, c'est l'expression des égoïsmes, c'est la résurgence du nationalisme, alors que le projet européen, c'est de transcender les nationalités, d'éteindre les nationalismes, c'est d'avoir des intérêts communs. Je ne crois pas que l'Union européenne en tant que telle, dans son entièreté, soit à la hauteur des enjeux. Le système du Dublin ne fonctionne plus, fonctionne mal.
Vous regrettez, en tant que socialiste, de ne pas en avoir fait plus lorsque vous étiez au pouvoir pour les réfugiés ?
Moi, je regarde aujourd'hui, vous savez, j'étais à la leçon inaugurale de François Héran, au Collège de France.
Le
spécialiste. Des migrations. Aujourd'hui, je regarde la situation telle qu'elle est. Ça fait 30 ans qu'on a une politique migratoire qui, sans doute, dans le moment, montre ses limites. Je me dis d'abord, pourquoi la loi qui nous est proposée par le gouvernement, nous la condamnons ? Parce qu'elle est inutile, on vient de légiférer. Mmh. Parce qu'elle est dangereuse, en réalité, là où elle prétend renforcer le droit d'asile, elle y fait obstacle. Et elle est cynique parce que, à bien des égards, il nous est dit, si on ne veut pas avoir l'extrême droite, il faut qu'on règle ça maintenant. On le condamne. Mais on a besoin d'accord de Paris des migrations. Parce que le phénomène est mondial.
Pardonnez-moi, Boris Vallaud, est-ce que, certes, ce projet de loi asile et immigration est distinct de ce que le Parti Socialiste avait fait, mais est-il si différent dans l'inspiration ?
Il est radicalement distinct parce qu'à aucun moment, il n'a été question, dans le précédent quinquennat, de réduire les droits des demandeurs d'asile. Il n'a jamais été fait autant montre de fermeté. Et au fond, il n'y a jamais eu aussi peu d'humanité que dans la politique gouvernementale. Il n'y a jamais eu d'atteinte à l'hébergement inconditionnel. Et, pardon, mais vous évoquiez le style du président de la République et de cet exécutif. C'est un projet de loi qui est condamné de toutes parts, par les associations unanimement, par les autorités administratives unanimement, par les chercheurs, les intellectuels qui s'en émeuvent, unanimement.
Et par les Français.
Mais vous savez, de temps en temps, il faut, quand le vent est mauvais, il ne faut pas aller dans son sens. Vous savez, il y a une phrase que je trouve très, très juste de Rousseau, qui dit, dans Émile, « La domination même est servile quand elle tient à l'opinion, car tu dépends des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés. » Et on en est là. Et quand on a été élu face à l'extrême droite, on a un devoir particulier. Moi, au second tour de l'élection présidentielle, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Parce que j'ai voté pour la bienveillance face à l'obscurantisme, pour l'ouverture sans repli sur soi, pour l'amour des siens plutôt que la haine des autres.
Mais tout ça, vous l'avez dit à votre ancien camarade Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur aujourd'hui.
Eh bien, la discussion générale...
Il écoute Gérard Collomb un peu ?
Non, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas même ses propres troupes. Non. Et alors moi, je lui dirais,
pardonnez-moi, Boris Vallaud.
Mais que tous ces gens-là, animés par la revanche,
c'était de mauvais socialistes.
Mais sans aucun doute. En tout cas, c'était pas des socialistes de conviction. Ben oui, ils sont peut-être nombreux. Mais vous savez, moi, quand je regarde sur les bancs de la République en marche et que je vois, vous avez raison de le dire, un certain nombre d'anciens socialistes qui applaudissent debout à la baisse des APL, à la suppression de l'ISF, à ce projet de loi immigration, j'ai honte. Plus fort peut-être que.
On va continuer à égriner les mauvais socialistes. Manuel Valls, c'est un bon ou un mauvais socialiste ?
Écoutez, je ne sais même pas si on peut le qualifier comme ça.
Bah,
en tout cas, manifestement, il ne se qualifie plus comme ça. Et à dire vrai, moi non plus.
Benoît Hamon, c'est un bon ou un mauvais socialiste ?
Mais écoutez, je ne suis pas là. Vous savez, vous pouvez les égrener longtemps. Mais je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. Moi, la question que je me pose...
En tout cas, non, il ne fait plus partie du même parti.
Mais voilà, et effectivement, il n'est pas au Parti Socialiste.
Vous aviez voté pour lui au premier tour de la présidentielle ?
Absolument, j'avais fait sa campagne.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous distingue, je veux dire, vous collectivement, le Parti Socialiste, de Benoît Hamon ?
Écoutez. Vous savez, depuis tout à l'heure, vous me demandez de me positionner par rapport aux uns et aux autres. Moi, ce qui m'intéresse...
Vous pouvez le faire entre eux.
Ce qui m'intéresse, c'est le chemin qu'on va emprunter. Et c'est ce qu'attendent les militants du Parti Socialiste et au-delà, les Français. qu'avons-nous à dire sur les inégalités, sur la reproduction des inégalités, sur notre système fiscal, social, qui, à bien des égards, est devenu anti-redistributif. Que dit-on, par exemple, de l'accumulation du capital entre les mains de quelques-uns qui va s'accentuer avec la transition démographique? Non, mais on a des choses à dire.
Non, mais je ne doute pas que vous ayez des choses à dire, mais pour l'instant, l'offre politique
que dit-on,
à gauche est extrêmement compliquée,
Boris Vallaud. Eh bien, nous allons la construire, nous allons émerger. Vous allez voir que l'imagination n'est pas au pouvoir, mais il est dans l'opposition, il est en particulier au Parti Socialiste.
Comme vous
on aura des choses à dire sur les transitions, sur la transition numérique, qui a donné à voir qu'une part d'elle-même, qui va ébranler tous les cadres connus. On va avoir des choses à dire sur la transition numérique, sur les modes productifs, sur la place que l'environnement doit occuper dans la compétitivité des entreprises.
Vous parlez au futur, ce sera quand ces grandes idées,
démarre,
ce sera avant
les
élections européennes?
Bien sûr, dans les semaines, dans les mois à venir. Vous savez, nous avons eu un congrès. Nous avons constitué les instances du Parti Socialiste dimanche.
Ouais.
Eh bien, nous sommes au travail, et je tiens à vous faire remarquer, mais je ne doute pas que vous soyez des observateurs avisés, qu'à l'Assemblée nationale, nous avons déjà déposé un certain nombre de propositions de loi qui méritent l'attention des journalistes, notamment sur la gouvernance d'entreprise, qui est une chose radicalement nouvelle.
Oui, une alternative à la loi promue par Bruno Le Maire que vous souhaitez porter.
Nous avons été... C'est la loi d'Ed Bruno Le Maire qui escompte être une alternative à la nôtre. Mais la nôtre est autrement plus ambitieuse et regarde, vers l'avenir.
Mais la sienne sera sans doute votée, c'est la différence qu'on peut voir.
Oui, et oui,
juste une question sur la réforme des institutions, Boris Vallaud. On nous annonçait une grande réforme, sabre au clair, qui allait dépoussiérer la Ve République avec peut-être un référendum dès le mois de juin. Et finalement, désormais, le gouvernement nous parle de la fin de l'année 2018, un peu en catimini. En tout cas, on ne parle plus du tout de référendum. Comment vous, parlementaire, vous lisez cette forme de timidité nouvelle du gouvernement?
Bah, écoutez... le gouvernement empile les réformes les unes aux autres. Donc à un moment donné, il se prend lui-même les pieds dans le tapis de son calendrier. Est assez prévisible.
C'est juste une question de densité parlementaire.
Il y a sans doute de cela. Mais il n'y a pas que cette réforme dont on nous annonce que finalement elle est différée. Moi, je crois qu'on a toujours besoin de débats parlementaires, de débats citoyens. Mais au fond, ce qui m'importe, c'est le fond de cette réforme. Est-ce qu'elle va résoudre les maux qui sont ceux de notre démocratie et d'une certaine manière, notre pratique institutionnelle sous la Ve République?
Restaurer la confiance.
Restaurer la confiance, restaurer les pouvoirs du Parlement, rééquilibrer le poids de nos institutions, donner une place nouvelle aux citoyens. La vérité, c'est que ça n'est pas le cas. C'est une réforme qui va...
Pourquoi ça n'est pas le cas?
Mais parce que, est-ce que l'équilibre institutionnel, c'est-à-dire le poids excessif du président de la République est remis en question? Non, il va être conforté. Avec un Parlement dont les pouvoirs ne vont pas être, agrandis, mais au contraire réduits. Est-ce que vous pensez, moi je me pose beaucoup de questions parce
Est-ce que vous pensez que c'est ce que les Français veulent, puisque on a la sensation que les parlementaires veulent un système parlementaire.
Écoutez, mais vous savez, les Français sont pas totalement idiots. Ils réclament aujourd'hui un débat.
Être présidentialiste sans être idiot.
Mais ils sont pas pour moins de démocratie. Je veux dire, demander aux Français, est-ce que vous êtes pour moins de démocratie? Regardez, on va avoir moins de parlementaires dans le premier Parlement du non-cumul. Et c'est une bonne chose, parce que ça donne de la respiration. Dans les Landes, il y a deux sénateurs et trois députés. Il y aura un sénateur et deux députés. Quelles seront les occasions pour les citoyens d'interpeller leurs parlementaires? Elle sera réduite. Est-ce que la petite dose de proportionnel va améliorer la représentativité? Certainement pas. Est-ce que les pouvoirs de l'opposition vont être augmentés? Est-ce que l'opposition, comme c'est le cas déjà de la commission des finances, va présider d'autres commissions? Est-ce que un certain nombre de membres de l'opposition pourront avoir, comme les rapporteurs spéciaux, des pouvoirs d'enquête sur pièce et sur place? Ça n'est pas le cas.
La République en marche. Regardez, fait valoir l'efficacité.
Oui, mais l'efficacité, c'est pas, ça ne fait pas au détriment du débat démocratique. Vous voyez, on ne peut pas mettre dos à dos la démocratie et l'efficacité.
Mais si,
je crois pas qu'il y ait plus d'efficacité avec moins de démocratie. Je pense qu'il y a plus d'efficacité, plus de justice avec plus de démocratie.
Actuellement, il y a deux dossiers, Boris Vallaud, qui sont des dossiers particulièrement chauds pour l'exécutif. Celui de la SNCF, tout d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme en cours et que serait, selon vous, une politique adaptée, la politique que préconiserait le nouveau Parti Socialiste à ce sujet?
D'abord, vous dire qu'il y a eu une réforme en 2014 et en 2016, à la suite du quatrième paquet ferroviaire. Donc on a un gouvernement qui considère que tout commence avec lui. C'est assez amusant de temps en temps, notamment parce que vous avez souligné vous-même que beaucoup étaient des classiques de la politique. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Il y a une rénovation du dialogue social avec une convention collective qui a été négociée, qui a été approuvée, qui vont avoir des conséquences sur l'organisation du travail à la SNCF. Là, on a un gouvernement qui nous dit les difficultés de la SNCF sont liées au statut des cheminots et au statut de l'entreprise. Et laisse à penser que l'ouverture à la concurrence, qui vient de loin, des années 90, impose des modifications de l'un et de l'autre. Aucun texte européen ne le dit. Aujourd'hui, les difficultés de la SNCF, elles tiennent d'abord à sa dette, au niveau d'investissement, qui est insuffisant dans les infrastructures, et à la nécessité de travailler sur le travail et l'organisation de l'entreprise. Sur la dette, nul ne doute que c'est une dette de la nation, puisqu'elle est constituée de la somme des décisions des gouvernements, pas des décisions autonomes de l'entreprise SNCF ou RFF. Cette dette, elle doit donc être reprise. On n'a pas d'informations sur ce sujet. Ce sera repris progressivement, dans quelle proportion? On n'en sait rien. Et puis, il y a le niveau d'investissement. Il est insuffisant. Dans le contrat de performance qui a été signé il y a quelques mois à peine par Florence Parly, aujourd'hui membre du gouvernement, on prévoyait 46 milliards d'investissements dans les infrastructures dans les 10 ans qui viennent. Aujourd'hui, on nous parle de 36 milliards. Je crois que le gouvernement ne répond pas convenablement à ceux des enjeux qui sont centraux et qui seraient la proposition du Parti socialiste.
Le gouvernement précédent avait fait ce qu'il fallait faire au sujet de la SNCF, Boris Vallaud ?
Il avait largement engagé la réforme qu'il fallait faire. Et je crois que s'il avait été aux affaires, il aurait été confronté à ces deux questions, la reprise de la dette et le niveau d'investissement.
Au sujet des universités maintenant, là aussi on voit une grogne liée à Parcoursup, ce système donc d'orientation des étudiants, un système qui remplace APB qui est votre système d'orientation des étudiants, pas le vôtre personnel. Mais
oui, mais même pas celui du précédent quinquennat, puisque en réalité ça existe depuis bien plus longtemps.
Qu'est-ce que vous pensez de cette colère qui monte dans les universités? Comment la jugez-vous, Boris Vallaud?
Écoutez, l'inquiétude s'agissant de Parcoursup, je la comprends. APB avait évidemment ses défauts. Le tirage au sort, qui a été réduit de moitié dans le précédent quinquennat. Pas le précédent quinquennat qui invente le tirage au sort. Il l'a réduit de moitié. Ce système de tirage au sort devait disparaître. Il était extrêmement minoritaire. La force de ce gouvernement est d'avoir fait croire que tout le monde était tiré au sort et que c'était l'aléa et l'injustice la plus grande. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que une partie de l'algorithme de Parcoursup et l'algorithme d'APB, d'ailleurs, c'est le même institut à Toulouse, le même laboratoire de recherche qui y travaille. Mais il y a fondamentalement une différence de philosophie. Je crois que ce gouvernement, à travers la faiblesse des moyens qu'il consacre à l'enseignement supérieur, en dépit de ce qu'il dit, puisque nous avons chaque rentrée l'équivalent de deux petites facultés en plus, il faudrait entre 800 et 1 milliard en plus chaque année, il y met 200 millions, je crois qu'il renonce à une ambition, qui est une ambition républicaine, d'élever le niveau général de la population, de porter 60% d'une classe d'âge diplômée du supérieur, et au fond, c'est la démocratisation scolaire qui est en cause, et dans ce genre de situation, on sait que la différenciation sociale est à l'œuvre avec une violence extrême. Et c'est pour ça que les étudiants ont raison de s'inquiéter. Le droit de faire des études supérieures, le droit de choisir sa voie est important. Et en même temps, je le dis, il faut avec détermination lutter contre l'échec à l'université, en particulier dans les premières années.
Boris Vallaud, justement, les jeunes et le Parti socialiste, vous êtes fait piquer le mouvement des jeunes socialistes par Benoît Hamon. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Eh bien écoutez, un certain nombre de responsables du mouvement des jeunes socialistes sont partis chez Benoît Hamon, mais le mouvement des jeunes socialistes, à ma connaissance, en tout cas, ils étaient au congrès.
Alors aujourd'hui, disons que aujourd'hui, le mouvement des jeunes socialistes, je ne sais pas s'il continuera à s'appeler ainsi, mais en tout cas, il s'est rangé derrière Benoît Hamon.
Non. Vous avez une partie de la direction de ces militants qui ont rejoint Benoît Hamon.
20 sur 25.
C'est leur droit. Oui, dans une direction. Dans une direction. J'en ai vu plus que 25 jeunes socialistes au congrès du Parti Socialiste. Donc voilà, écoutez, vous savez, moi je crois que c'est par nos idées, par notre travail, par notre capacité à nous rénover, à être une force transformatrice, à avoir un projet et à dessiner un avenir que nous réattirerons les jeunes à nous au sein du MGS, au sein du Parti Socialiste, et puis, je l'espère, dans les urnes.
Frédéric Seize.
Étudiants, cheminots, on en a parlé, personnel hospitalier aussi, qui sont assez mobilisés, avocats dans une toute autre mesure. Est-ce que vous croyez, vous, à la convergence des luttes? Ça a été une expression qui a fait débat lors de l'interview du président Macron.
Écoutez,
Il y a quelque chose qui se lève de commun?
Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux constater, c'est effectivement la multiplicité des motifs d'insatisfaction. Avec d'ailleurs, à chaque fois, le même constat. On ne nous écoute pas. Il y a un projet qui est censé être le fruit d'une co-construction, mais qui en réalité est le fruit
autoritaire,
des cogitations solitaires de l'exécutif. Et ça avance sans nous. C'est ce que m'ont dit les avocats du barreau de Mont-de-Marsan, que j'ai vu il y a quelques jours, qui s'inquiètent de la déjudiciarisation, qui est tout faux une rupture d'égalité dans l'accès à la justice, qui craignent des non-recours dans l'accès à la justice. C'est ce que m'ont dit les personnels des EHPAD que j'ai rencontrés et qui s'inquiètent, les personnels hospitaliers, de la même manière.
Mais est-ce que tout ça fait masse?
Écoutez, je ne sais pas si tout cela fait masse. Je ne sais pas si tout cela fait mal. Je ne sais pas si il y a une convergence des luttes. Il y a des motifs de plus en plus nombreux de mécontentement. Et l'exercice du pouvoir ne peut pas être un exercice solitaire.
Parce que le pari du gouvernement, c'est ça. C'est que finalement, ces mouvements sont tellement épars, divers, divisés, qu'il n'y a pas de danger, pas de péril en la demeure macroniste.
Mais vous savez, enfin, je vais vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas d'aspiration à ce que le pays soit bloqué. Je n'ai pas d'aspiration... à ce que ce soit le chaos.
C'est ce qui vous distingue du restant de la gauche,
Boris? J'ai une aspiration, mais c'est pas ça. C'est que je crois que notre aspiration profonde, c'est quoi? C'est d'abord à ce qu'il y ait des changements dans l'orientation du gouvernement, que ce gouvernement écoute, que d'une certaine manière, il arrête la grève du débat parlementaire et du dialogue social.
On l'a entendu, mais est-ce que vous appelez aux manifestations?
On sera le 1er mai et le 22 mai dans les manifestations, si c'est votre question. Et nous, comme nous y étions il y a quelques semaines.
Mais pas le 5 mai dans la manifestation organisée par François Ruffin.
Écoutez, on est dans les manifestations unitaires et vous savez, on est dans une posture qui nous est demandée par les organisations syndicales d'être en soutien au mouvement syndical, de ne pas être devant.
Pourtant, vous avez dit, être élu rend immédiatement impopulaire, expose à tout, je déteste la violence. Est-ce qu'on assiste justement à un regain de violence? Et si vous détestez la violence, est-ce que vous condamnez celle que l'on observe?
Écoutez, les circonstances dans lesquelles j'ai dit ça sont très précises. Ça répondait à une question qui m'avait été posée, c'est qu'est-ce qui a déterminé votre choix à vous présenter? Et j'ai dit que ce n'était pas une évidence, parce que je connais la violence de la politique, je l'ai observée de près, j'en ai vu la dureté, et je ne suis pas certain que la politique doive nécessairement être un sport brutal et un sport de combat. Voilà, parce que je crois au débat, parce que je crois au dialogue, je crois à sa nécessité. Voilà.
Et puis
les violences, d'où qu'elles s'expriment, évidemment que je les condamne.
La violence que l'on observe à Notre-Dame-des-Landes, alors à vous de choisir d'ailleurs si vous considérez que la violence première est celle des forces de l'ordre ou celle des zadistes, comment la jugez-vous?
Je crois qu'il y a une décision qui a été prise et que l'ordre public doit être respecté. Donc ces zones ont vocation à être évacué. C'est indépendant de l'appréciation que je peux porter sur le projet tel qu'il était envisagé.
Vous
ne trouvez
pas qu'il y a eu une utilisation disproportionnée de la force, que l'on a fait en sorte de radicaliser le mouvement?
Écoutez, moi là, je ne fais pas de procès d'intention. Je vais vous dire la vérité, je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. Je n'ai pas l'information qui me permette de le dire dans un sens ou dans un autre. Donc, je veux dire qu'il y a une décision qui a été prise, il y a des occupations qui sont illégales.
Donc Emmanuel Macron a bien fait de trancher, même s'il
doit y avoir des évacuations. Si vous posez la question de savoir sur le fond de l'affaire, moi je suis pas capable de dire si c'était un bon ou un mauvais projet. C'était un projet qui avait 40 ans, donc manifestement il y avait un petit problème de méthode quand même. Il était urgent de décider, mais j'aurais préféré plutôt qu'on nous dise les circonstances ne nous sont pas réunies, qu'on nous dise ça n'est pas fondé sur le plan économique, ça n'est pas conforme aux prévisions de trafic, il y a des problèmes environnementaux, il y a plusieurs projets qu'on va resoumettre au vote. Là évidemment ça n'a pas été le cas.
Frédéric Seize.
Oui, une question peut-être plus personnelle, Boris Vallaud, pour terminer sur votre adhésion à l'idéal socialiste et les conditions qui ont eu lieu, qui ont été très dures. On résume en quelques mots. Il y a eu le siège vendu pour le Parti Socialiste, il y a eu une certaine fuite militante, il y a eu bien sûr les scores aux élections législatives et présidentielles qui n'ont pas été bons. Et puis, de manière plus globale, en Europe, on voit que les sociaux-démocrates sont à la peine un peu partout. Qu'est-ce qui vous fait rester au Parti Socialiste? Qu'est-ce qui vous fait croire finalement que c'est un mouvement d'avenir?
Mais parce que moi, j'ai le sentiment qu'un certain nombre de valeurs, d'idéaux, d'aspirations ne sont pas disqualifiées par une élection quelle qu'elle soit.
Ça va être dur, là.
Ceux qui ont perdu dans ces élections, eux, peuvent l'être et ont besoin de convaincre à nouveau.
On parle
c'est
de
un
Benoît
travail
Hamon,
considérable. Non, je ne parle pas de Benoît Hamon, je parle
c'est
de tout
lui
le monde.
Qui a perdu.
Je parle de tout le monde. Je pense que la défaite, elle est très largement collective. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je ne fais pas le procès de tel ou tel, ou alors il faudrait faire le procès de beaucoup de
mais
monde.
Mais justement, vous allez me dire que je me répète, mais qu'est-ce qui vous distingue? C'est possible, ça arrive à tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous distingue de Benoît Hamon ou de la France Insoumise? Pourquoi vouloir maintenir le PS alors qu'il y a une offre
notre,
à gauche?
Notre rapport à l'Europe n'est pas le même que celui de Jean-Luc Mélenchon.
Et pour Benoît Hamon,
il n'y a pas de repli sur soi.
Et pour Benoît,
c'est un idéal, c'est un horizon. On n'a pas l'aspiration. Vous savez, moi, quand je regarde le Brexit et l'élection de Trump, je me dis pas que c'est une victoire des États, le retour aux manettes. Je pense que quand on déserte l'ordre mondial, où doit se régler la question des migrations, la question de la fiscalité, la question environnementale, eh bien, on laisse la place aux libéraux.
Je vais encore me répéter, mais là, c'est parce que je n'ai pas obtenu de réponse.
J'ai bien compris.
Si vous ne me répondez pas, je répéterai la question sur Benoît Hamon.
Mais écoutez, Benoît Hamon cherche un chemin. Moi, je reproche à personne de chercher un chemin après la débâcle qui a été la nôtre. J'aurais préféré qu'il, sans doute, il reste au Parti Socialiste, parce que bah, ceux qui ont fait leur campagne se sont retrouvés un peu en short, là. Et un peu, quand même, cocu. Bon, eh ben, il va agiter un certain nombre d'idées. Certaines sont convaincantes, d'autres le sont moins. On aura notre propre agenda, nos propres calendriers. Et puis voilà, je veux dire, chacun sa vie.
Merci beaucoup, Boris Vallaud, nouveau porte-parole du Parti Socialiste.